Vous cherchez un espace pour échanger avec d'autres parents d'ados et avoir des solutions à des problématiques spécifiques? Nous avons quelque chose de spécial pour vous. Écoparento, un groupe de parole en visio qui aura lieu tous les troisièmes jeudis du mois. J'animerai ce groupe en compagnie de Florence Bramy, psychologue experte de l'adolescence et auteure du livre Le guide parental pour comprendre son ado. Un format en deux parties. 30 minutes de conférence sur une thématique prédéfinie et 45 minutes d'échange avec la psychologue et les autres parents. Notre premier rendez-vous aura lieu le 23 mai à 20h sur le thème des relations parents-ados. Nous allons voir dans ce groupe de parole comment exprimer vos irritations à vos ados sans les blesser, comment réagir de façon constructive aux différentes préoccupations de vos ados, comment encourager vos ados à assumer leurs responsabilités, ou encore comment fixer des règles et les exprimer et comment intervenir sans punir. Un beau programme pour apprendre de façon concrète comment mieux se faire comprendre de vos ados en leur exprimant et en leur faisant comprendre vos préoccupations de parents. Et surtout, comment les écouter et rester sur la même longueur d'onde. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site parentalitéadolescence.com puis sur l'onglet « Groupe de parole ». Nous avons hâte de vous accueillir. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Le 26 janvier, j'ai participé au Festival de l'Apprendre en proposant une visio avec deux experts de la Maison des Adolescents pour vous parler de la santé mentale avec un focus sur les jeunes et les gestes qui sauvent avec la fameuse formation PSSM, premier secours en santé mentale. Je me suis dit que c'était une bonne idée de laisser à disposition cet échange pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes ce jour-là. Il y a avec moi Cécile Charazas, infirmière et doctorante en sciences de l'éducation, et Karine Benaben, psychologue. Toutes les deux sont professionnelles de la Maison des Adolescents à Bordeaux. Vous l'aurez compris, cet échange n'était pas prévu à la diffusion sur le podcast, donc l'enregistrement s'est fait uniquement via des ordinateurs. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, donc on entend beaucoup parler de santé mentale sans trop savoir ce qu'il y a derrière ce mot. Donc chacune à votre tour, Cécile et Karine, est-ce que vous pourriez du coup nous en dire un peu plus quand on parle de santé mentale, de quoi on parle ?
Oui, alors le plus pratique, c'est de se baser déjà sur la définition un peu officielle qui fait consensus. Donc nous, on a été chercher la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est assez parlante parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc il n'y a pas de santé globale sans santé mentale. C'est vraiment une composante à part entière de la santé globale des personnes. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la santé mentale, ce n'est pas un état figé. C'est vraiment cette recherche permanente d'un état d'équilibre psychique. Et cet équilibre, c'est important aussi de se représenter qu'il est propre à chaque personne et qu'il va dépendre très largement des conditions de vie et des événements que la personne peut vivre ou qu'elle a vécu par le passé. Donc, ce qui est aussi important de garder à l'esprit, c'est qu'une personne peut ne souffrir d'aucune maladie psychique, mais pour autant ne pas être forcément en bonne santé mentale. Et c'est vrai aussi pour l'inverse, c'est-à-dire qu'une personne peut se sentir dans un bien-être mental tout en ayant par ailleurs un trouble psychique, mais bien traité, bien étayé. Donc voilà pour une définition un peu globale pour poser de grands repères.
Super. Est-ce que Karine, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, ce qu'on peut peut-être dire effectivement sur les adolescents et les parents qu'on reçoit, notamment à la maison des ados, puisque c'est là que nous exerçons, effectivement, nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir entendre chez un parent ou chez le jeune ce qui vient lui faire question à lui, lui pose question à lui, c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose qui a perturbé l'équilibre dans lequel jusqu'ici la famille ou le jeune vivait. Et ce qui nous importe, c'est de voir les répercussions que ça a pour ce jeune en particulier et la plainte ou la souffrance que ça suscite sans forcément aller tout de suite chercher la présence éventuelle d'un trouble psychique.
D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. Quand on parle de santé mentale au niveau des jeunes, on parle de quoi? Est-ce que, par exemple, vous auriez quelques chiffres à nous partager? Et ensuite, on verra ensemble les signes à repérer quand, et surtout quand s'inquiéter, en tout cas quand le jeune ne nous semble pas aller bien.
Oui, alors nous, on a, au sein de la maison des adolescents, on accueille les jeunes entre 11 et 25 ans. Donc, c'est déjà très large pour dire l'adolescence. C'est adolescence et jeunes adultes, et même la petite adolescence, hein, parce qu'à 11 ans, parfois, on n'est pas encore pubère. Ça dépend des ados. Pour ce qui est des chiffres, bon, rapidement aussi, hein, l'OMS, elle indique que 86% des adolescents, donc pour l'OMS, les adolescents, c'est la tranche 10-19 ans, ne présentent aucun trouble. Donc, c'est quand même plutôt rassurant qu'une large majorité d'adolescents se portent bien. Mais c'est un chiffre très global et ça ne dit pas grand-chose de la réalité du terrain que nous, on rencontre. Et nous, à la Maison des Ados, on a quand même, on parle plus de mal-être adolescent. Et comme disait Karine, on s'intéresse vraiment à ce qui viennent, ce qui nous amène, ce qui leur fait pousser la porte de la Maison des Ados. Et le fait de parler d'un mal-être comme ça nous permet à nous, en tant que professionnels, de saisir vraiment toutes les manifestations et toutes les formes de cet équilibre qui peut être un peu vacillant chez les jeunes, l'équilibre hein, psychique finalement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de remaniements qui se passent à l'adolescence. C'est une période de séparation, c'est une période de grands changements et de grands bouleversements au niveau du corps, au niveau de la relation à l'autre. Et tout ça peut venir bouleverser un peu l'équilibre. Et bon, pour contextualiser, si je peux vous donner quand même quelques, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais en tout cas un peu de matière sur pourquoi les adolescents, les jeunes viennent nous voir. En grande, grande majorité, la première, ce qui leur fait pousser la porte en premier lieu, c'est demander à être écoutés, c'est-à-dire rechercher un espace de parole pour eux et que quelqu'un puisse les écouter. La deuxième raison pour laquelle ils peuvent pousser la porte, c'est plus du côté du stress, de l'anxiété. Et il faut se représenter quand même que les jeunes, sans doute vous le savez dans l'auditoire, mais ils sont quand même soumis à beaucoup d'exigences aussi à cette période-là. C'est-à-dire que c'est à la fois une période de bouleversement, comme je l'ai dit, mais il y a aussi toute l'exigence de s'orienter scolairement, de s'autonomiser. C'est une demande à la fois familiale, sociale, qui est très forte. On dit souvent qu'il faut que les adolescents deviennent autonomes, etc., etc. Et c'est pas si facile que ça à cette période-là, avec tout ce qu'on a en plus à gérer un peu, entre guillemets, intérieurement, dans les relations eh bien, d'arriver à répondre à ces exigences-là qui pèsent quand même sur leurs épaules. La troisième raison de la venue à la maison des adolescents, c'est plus du côté d'une déprime. On a ces trois grandes raisons-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, y a quand même un premier abord qui est beaucoup du côté psychologique ou en tout cas de l'adolescent peut traverser et qui peut le mettre à mal. Mais cette première raison de la venue, pour nous, elle ne dit pas non plus grand-chose, c'est-à-dire que c'est qu'un indicateur, mais ensuite, il se déploie vraiment beaucoup de choses dans les entretiens, dans les accompagnements qu'on peut faire avec ces adolescents-là. Donc, il y a beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres problématiques qui se mettent à jour. Et donc, cette première raison de la venue, elle n'est que finalement le marchepied, hein, la première amorce. Donc du côté des repères, après, de ce qu'on peut peut-être repérer, parce qu'on se fie aux manifestations qui peuvent justement nous indiquer que la situation est un peu plus inquiétante. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais du coup, on
Parce que
y répondra après.
la question est quand même intéressante pour clarifier. Cécile demande du coup d'expliquer la différence entre le stress et la déprime, tu vois, le stress, l'anxiété et la déprime. Quelle est vraiment la différence que vous notez?
Alors là, ce que je vous ai donné, c'est une grande petite, enfin une grande classification interne, on va dire, qu'on a élaborée à la Maison des Ados, mais c'était notre idée. Et encore une fois, ça ne dit pas grand-chose de ce qui se passe ensuite dans l'accompagnement, mais notre idée, c'était de justement pouvoir discriminer un peu si c'était plus du côté du stress, de quelque chose qui angoisse, qui pèse, qui par exemple, voilà, peut empêcher de dormir la nuit, peut rendre irritable, en tout cas met sous pression, et quelque chose plus du côté de l'affaissement, voire de l'effondrement, enfin de quelque chose où là ça lâche et il n'y a plus par exemple l'envie de faire ce qu'on faisait auparavant, voilà, quelque chose plus d'un lâcher prise, mais au sens où ça vient aussi du côté d'une tristesse parfois, enfin voilà, des affects plutôt du côté de la déprime. Je ne sais pas si je suis claire dans ma réponse.
Moi, j'ai mieux compris. Genre, on peut vraiment se dire que, du coup, finalement, le côté anxieux, c'est vraiment un truc qui va nous peser, vraiment, où on va se sentir un peu étouffé, angoissé. Y a vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. Et le côté déprime, c'est vraiment plus. On n'a plus de force, on n'a plus envie d'avancer, quoi.
Et l'un peut être la conséquence de l'autre. On reçoit beaucoup de jeunes très anxieux, effectivement, dans leur quotidien, comme disait Cécile, qui ont à répondre à des exigences scolaires, parentales, sociales, et qui parfois se confrontent au fait qu'ils n'y arrivent pas, et qui se retrouvent confrontés à des situations qui se répètent et qui génèrent de l'anxiété pour eux, qui leur donnent le sentiment de ne pas être à la hauteur de toutes ces attentes, et qui peut justement entraîner un état dépressif, sans forcément qu'il soit question de dépression, mais un état dépressif lié au fait que justement les adolescents parfois ne se sentent pas à la hauteur de ce qui serait attendu d'eux. Et ce sentiment de tristesse ou de déprime peut justement en rajouter du côté d'une anxiété, et donc ça se mord un peu la queue.
Super, bon,
Oui.
merci beaucoup, c'est vachement plus clair. Du coup, bah maintenant, est-ce qu'on peut parler justement des signes à repérer et quand on doit un peu s'inquiéter justement quand on repère ces signes-là chez un ado?
Oui, tout à fait. Et juste, je termine sur cette question du stress et de la déprime, mais c'est pour ça que je disais que c'était une grande classification, c'est parce que les deux sont souvent entremêlés et que voilà, c'est juste une manière pour nous de grands repères, mais c'est tout. Du coup, sur les signes et les manifestations qui peuvent inquiéter les parents et les adultes autour d'un adolescent ou d'une adolescente, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je vais là vous lister de grands, enfin des types de manifestations, mais c'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en dire comme ça de manière un peu justement en faisant le focus sur une tristesse ou une perte de plaisir, etc. Donc il faut garder en tête que ça peut s'entremêler, ça peut ne pas être si clair que ça, mais que c'est important en tout cas de s'y attarder. Donc ça peut être par exemple un adolescent qui se sent triste, et même s'il n'en dit rien, c'est-à-dire c'est pas forcément un adolescent qui dit qu'il est triste, mais on peut remarquer par exemple que il est moins enthousiaste pour plein de choses, que il peut perdre plaisir dans les activités qu'il aimait auparavant, qu'il peut se replier, c'est-à-dire rester beaucoup plus dans sa chambre ou à la maison, en tout cas moins aller vers l'extérieur. Ça peut être aussi au niveau d'un changement d'humeur, d'être plus irritable, de pas pouvoir avoir des moments de colère ou voilà, d'agacement. Ça peut être du côté d'une perte d'énergie, d'un adolescent qui va beaucoup dormir, par exemple, ou au contraire d'un adolescent qui va s'agiter, qui va être incapable de se poser. Et ça, dans un changement par rapport à ce qu'il était avant, parce qu'après, il y a aussi des tempéraments et il ne s'agit pas de, comment dire, d'aller tout de suite du côté de quelque chose du trouble si justement il y a une manifestation qui apparaît. Ça peut être aussi du côté alimentaire, des modifications à la fois de l'appétit et puis des modifications dans la manière de s'alimenter qui peuvent entraîner soit une perte, soit une prise de poids significative. Un adolescent, une adolescente qui va se dénigrer, qui va culpabiliser de manière injustifiée, qui va aussi, quand ils sont au collège ou au lycée, souvent se rendre à l'infirmerie parce qu'il va toujours avoir un petit bobo quelque part, donc qui somatise, entre guillemets, en tout cas qui va demander à ce qu'on s'occupe un petit peu de lui, sans forcément, encore une fois, pouvoir dire ce qui se passe pour lui intérieurement, mais qui va comme ça appeler l'adulte à s'occuper de lui. Un adolescent aussi qui va changer d'amis ou qui va plus se couper de ses relations, ça c'est quand même des choses qui nous inquiètent. Et puis aussi la prise de risque. Un adolescent qui peut prendre des risques à répétition, comme du côté de la consommation de drogue ou d'alcool de manière excessive, le fait de conduire sans casque, d'avoir des rapports sexuels non protégés, ou alors d'avoir des relations très compliquées avec les autres qui peuvent s'envenimer avec potentiellement des bagarres, des choses comme ça. Et puis tout adolescent aussi qui va pouvoir manifester et verbaliser peut-être des pensées morbides, voire des idées suicidaires, ce qui là doit effectivement nous inquiéter. Enfin, ces deux derniers points sont particulièrement quand même assez clairs du côté de l'inquiétude que ça peut susciter chez les adultes. Mais encore une fois, pour nous, tout dépend à la fois de la fréquence de ces manifestations, de leur nombre. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans la petite liste que je viens de vous donner? Et aussi du retentissement, finalement, de l'intensité de ces manifestations et du retentissement qu'elles peuvent avoir sur la vie de l'adolescent. Parce qu'un adolescent qui, finalement, va se replier au domicile, c'est-à-dire ne va plus que aller en cours, mais va se couper de toutes ses relations amicales et finalement va rester enfermé dans sa chambre et ne rien pouvoir dire de sa situation. Là, par exemple, il y a un grand retentissement, même s'il n'y a qu'un symptôme, entre guillemets, qu'une manifestation, il y a un grand retentissement sur sa vie, c'est-à-dire que ça l'isole complètement. Donc là, ça doit vraiment fortement nous inquiéter. Après, l'adolescent, il peut aussi avoir des moments de retrait, des moments de tristesse parfois, et c'est complètement normal aussi à l'adolescence de pouvoir traverser ces moments-là, parce que c'est une période qui est très riche en rupture, en émoi, enfin, c'est aussi les premiers émois amoureux, donc les premières ruptures aussi, et il faut se souvenir du ravage que ça peut faire, on a toutes et tous été adolescents, c'est quand même une période où ça prend des proportions importantes, et c'est normal que ça prenne ces proportions-là, parce que ce sont les premières fois que ça arrive à l'adolescent, et ça vient questionner chez lui, enfin, provoquer des questions très existentielles, hein, très philosophiques, de qui il est, comment il va s'orienter dans ce monde-là, de quelles relations il va entretenir avec les autres, etc. Et il va pouvoir se confronter aussi à des interactions qui ne sont pas toujours ajustées à ce qu'il voudrait. Et donc tout ça peut provoquer chez lui des affects qu'on va dire négatifs, en tout cas voilà, de la déprime, de la tristesse, mais c'est aussi important qu'il puisse finalement s'y confronter et apprendre à trouver les ressources en lui-même pour pouvoir justement surmonter ces moments-là et continuer de vivre et puis d'entrer en relation avec les autres malgré ça. Donc nos repères, et ma collègue en dira plus, c'est vraiment la fréquence, l'intensité et le retentissement de tous ces symptômes qui peuvent se manifester de façon normale, aussi bien que de façon un peu plus inquiétante, où on va se préoccuper de l'adolescent. Je ne sais
Merci.
pas si tu veux, pardon. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Karine.
Oui, enfin, on y reviendra peut-être, on reviendra peut-être après dessus, mais les raisons pour lesquelles les parents nous sollicitent aussi souvent à la maison des ados, c'est justement d'avoir un peu de mal à faire la part des choses entre ce qui serait une adolescence dite classique, bon, parce que dans les faits, aucune adolescence ne ressemble à une autre, mais justement, parfois, il y a une perte de repère entre ce qui serait de l'ordre d'un repli ou d'une tristesse ou de symptômes passagers qu'on retrouve souvent fréquemment à l'adolescence, et l'entrée dans quelque chose qui serait plus problématique et qui s'inscrirait dans du plus long terme du côté d'un trouble éventuel. Donc effectivement, c'est difficile, y compris pour les professionnels, hein, de faire la part des choses parce que c'est une période qui est extrêmement mouvante, qui n'est pas figée dans le temps. Donc il s'agit pas non plus de prendre des symptômes passagers pour quelque chose qui serait plus durable. Donc ça nécessite aussi une évaluation un peu long cours.
Merci beaucoup. Alors justement, on parle depuis tout à l'heure un petit peu de la maison des adolescents, et c'est bien normal parce que vous y travaillez. Mais est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce qui se passe dans cette maison des ados et quel est votre rôle, surtout au sein de la maison, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde de comprendre un petit peu ce qui s'y passe.
Oui, alors ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que on était ouvert, c'est un lieu ouvert aux jeunes entre 11 et 25 ans, donc maison des adolescents et des jeunes adultes, mais aussi à l'entourage proche. Et dans l'entourage proche, on ne comprend pas que les parents, ça nous arrive de recevoir des grands-parents, des grands frères, des oncles, des tantes, enfin toute personne en fait qui va se préoccuper d'un adolescent, qui va se poser des questions à son sujet et qui va avoir besoin d'échanger avec des professionnels à ce sujet-là. Et donc, nous, on est là aujourd'hui avec vous, avec ma collègue Karine, mais dans l'équipe, il y a des infirmières, des psychologues, des éducatrices spécialisées, assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale et également animatrices. Donc, on est comme ça une diversité de professionnels. Ça, c'est l'équipe d'accueil, hein. Après, il y a évidemment une secrétaire qui peut faire l'accueil téléphonique, l'accueil physique des personnes qui se présentent. On a en interne un médecin psychiatre qui est là 3 heures par semaine avec nous pour justement pouvoir nous aider sur les situations qui sont un peu plus du côté médical. Et puis, bon, après, il y a une équipe, enfin, il y a une direction et puis un conseil d'administration, mais c'est pas très intéressant que j'en parle. On va se centrer sur l'équipe d'accueil, puisque aussi diverses soient nos professions, on occupe toutes et tous la même fonction au sein de la maison des adolescents, c'est-à-dire qu'on va recevoir les adolescents ou jeunes adultes et leurs parents, entourage proche, en entretien individuel. C'est-à-dire que quand un adolescent vient accompagné de ses parents, les parents vont être reçus par quelqu'un, par un professionnel de l'équipe, et l'adolescent va être reçu par un autre professionnel. L'idée, c'est bien de marquer symboliquement que l'adolescent, il a sa place et qu'on s'intéresse à sa parole à lui. Puisque c'est pas rare que l'adolescent vienne, il y en a qui viennent spontanément de même, etc. Mais c'est pas rare qu'ils viennent aussi un petit peu contraints parce que l'établissement scolaire a dit que là, ce serait bien quand même d'aller à la maison des ados parce que les résultats baissent un peu ou parce qu'en cours c'est compliqué, parce que dans le relationnel avec les camarades, etc. Ou alors qu'ils viennent aussi un peu sous la contrainte de ses parents, ou, disons sur une forte invitation de ses parents. Donc le fait de lui ouvrir son espace à lui et de bien lui marquer que on est là pour l'entendre lui, ça peut faire cet effet de qu'il s'approprie en fait cet espace-là, en dehors des demandes qui peuvent un peu peser sur lui au niveau scolaire, au niveau familial, etc. Et donc l'objet, enfin la mission de la maison des adolescents, c'est vraiment de pouvoir faire ce premier point avec l'adolescent, très général en fait sur ce qui l'amène, entendre vraiment ce qui l'amène, et puis aller ensuite ouvrir toutes les portes, quoi, c'est-à-dire retracer un petit peu son histoire. Voilà, d'où il vient, quelles sont un peu les différentes dimensions à sa situation aujourd'hui, pour se représenter un peu finalement le tableau, on va dire, la situation globale. Et on fait la même chose du côté des parents, ce qui nous permet d'avoir aussi la notion de, bah, souvent du décalage qui existe entre la version de l'adolescent et les questions qui se posent à lui, et puis les questions qui se posent du côté des parents. Et on travaille avec ça au sens où nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner vers une orientation si cette orientation est nécessaire, c'est-à-dire une orientation sur le plan de la santé, hein, qu'elle soit somatique, psychique, sur le plan éducatif, parfois socio-éducatif, sur le plan de l'insertion. En tout cas, des questions comme ça qui peuvent être que je vais donner un exemple, mais un adolescent qui justement je garde cette situation-là où il se replie au domicile, où il va en cours mais il fait juste acte de présence, etc. Et dans l'entretien, il va par exemple pouvoir dire que effectivement il se sent peut-être vide, peut-être seul ou déprimé, il n'arrive pas trop à savoir pourquoi, il n'arrive pas à mettre des mots, et puis ça peut être aussi des pensées sombres, des choses comme ça, qui finalement sont présentes, l'empêchent de dormir, et qu'il garde comme ça à l'intérieur parce qu'il n'a pas tellement. Peut pas tellement définir les contours et pouvoir le verbaliser, eh bien dans ce cas-là, on va travailler une orientation vers un espace thérapeutique pour qu'il puisse vraiment être pris en soin et pouvoir dans ce moment-là avoir un espace où il puisse mettre au travail certaines choses et pouvoir finalement se défaire ou en tout cas comprendre ces pensées-là qui lui arrivent et justement écarter le risque, par exemple, d'un passage à l'acte suicidaire. Donc voilà un petit peu nos missions. Ça, c'est vraiment pour les missions de l'accueil écoute en entretien individuel. Après, on fait aussi des actions collectives à destination des jeunes, mais aussi à destination des parents. Et on a notamment un petit déj des parents qui se tient un samedi matin par mois, où on aborde à chaque fois une thématique différente. Le prochain, c'est samedi 10 février. Et on y parlera justement de l'orientation scolaire et de comment accompagner les adolescents dans leur orientation, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis en ce moment, on est en plein dans Parcoursup. Donc, c'est des choses qui nous reviennent aux oreilles. Donc, voilà un petit peu notre rôle. J'ai sans doute oublié des choses. Je ne sais pas si tu veux compléter, Karine, ce que je viens de dire.
Il y a aussi, parmi les actions qu'on développe, des actions de formation à viser des professionnels qui le souhaitent, parfois qui nous sollicitent sur une problématique particulière qu'ils aimeraient travailler avec nous. Les établissements scolaires aussi, parfois, qui se questionnent. Enfin, en dehors des actions de prévention qu'on peut faire et de sensibilisation autour de la santé mentale, on peut aussi proposer des formations avec des contenus qu'on travaille ensemble, et on y reviendra peut-être après, mais on est aussi amené à dispenser des formations autour des premiers secours en santé mentale.
Et c'est génial parce qu'on va en parler, parce qu'effectivement, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc j'avais vraiment envie qu'on en parle. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux pour la présentation et vraiment comprendre un petit peu comment fonctionne la maison des ados. Justement, donc vous accompagnez et les ados et les parents. Et donc, du coup, comment est-ce que vous avez des astuces, des conseils pour les parents, pour qu'ils puissent accompagner leurs jeunes, justement, quand ils repèrent peut-être des mal-être, des choses un peu qui vont pas comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Alors, la place des parents, elle est extrêmement importante. Je laisserai ma collègue compléter par la suite, mais ce qu'on peut peut-être dire dans les grandes lignes, c'est que les parents en général sont quand même préoccupés par ce qui se passe pour leur adolescent et préoccupés par plein de choses aussi, parce que on a dit plus haut que les adolescents, pour eux, il y avait plein de questions qui se posaient à cet âge-là, plein de, enfin, voilà, c'est un moment de séparation, d'autonomisation, pardon, etc. Mais du côté du parent aussi, en fait, il y a la question de la séparation, qui se pose, parce que finalement, l'adolescent, il va s'autonomiser. Donc, effectivement, il va quitter le nid, il va aller ailleurs, etc. Et tout ça, c'est des questions qui sont quand même aussi très vives pour les parents, parce que ça remobilise plein de choses du côté de leur propre adolescence et puis de leur propre actualité, c'est-à-dire, eh bien, qui vont-ils devenir, ces parents-là, une fois que l'adolescence sera partie ou que les adolescents seront partis? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une période qui est très, très vive en questionnement de chaque côté et pas que du côté de l'adolescent. Et donc, les parents sont souvent préoccupés par ce qui se passe pour leur adolescent et ils cherchent souvent à être dans le dialogue, dans essayer justement de pouvoir parler des choses. Et il y a certains adolescents avec qui ça se fait très bien, et puis il y a des adolescents pour qui c'est plus compliqué, parce que justement, cette période-là où on doit se séparer, c'est une période où finalement les adolescents cherchent d'autres points d'accroche et d'autres points d'ancrage, et sont beaucoup, par exemple, avec les groupes de pères, aussi divers et variés soient-ils, et on voit quelle importance ça revêt pour eux. Donc je dirais que, et ma collègue complétera, mais l'important du côté du parent, c'est vraiment de laisser cette porte ouverte, c'est-à-dire de se rendre disponible et de que l'adolescent puisse savoir qu'à tout moment, il peut effectivement soit se confier, soit faire appel à son parent, à ses parents ou à n'importe quel adulte d'ailleurs qui fait référence pour lui, que ce soit dans la famille, ça peut être l'oncle, la tante, le grand-parent qui est plus peut-être repéré pour l'adolescent et pour qui c'est plus facile à cette période-là pour lui de dialoguer avec ou de faire des activités avec. Mais en tout cas, même si les adolescents sont parfois dans des dynamiques de mise à distance, ou voire de rejet ou de conflit, etc., tout l'intérêt, c'est de quand même un peu tenir, entre guillemets, face à ça et laisser vraiment une porte ouverte. C'est-à-dire pas aller embêter, entre guillemets, l'adolescent, ou en tout cas, insister pour qu'il confie des choses, etc., parce que c'est peut-être pas du tout son envie et là où il en est. Mais en tout cas, dire, moi, je suis disponible, et si un jour tu as besoin, sache que tu peux, à tout moment, je suis là pour t'écouter, je suis là pour te soutenir, pour t'aider, etc. Je mettrais juste du coup une nuance par rapport à ce qu'on a dit avant sur les signes d'inquiétude. Si là, par contre, le parent ou l'adulte repère que il y a vraiment des inquiétudes importantes. Je dis l'adulte en général parce que quand on est parent d'adolescent, souvent on connaît d'autres adolescents puisque l'adolescent a des amis et on connaît par extension et on peut repérer, enfin, il y a certains parents qui repèrent chez les amis de leur adolescent des choses inquiétantes et ils ont toute légitimité à s'en préoccuper quand ces choses-là sont, eh bien, sont du côté de, comme je le disais, de quelque chose où le retentissement sur la vie de l'adolescent est manifeste et important. Et dans ces cas-là, les parents, les adultes ont toute légitimité à... Eh bien, à trouver un espace de parole pour l'adolescent, à aller consulter, que ce soit le médecin traitant, si c'est un médecin de famille qui connaît l'adolescent depuis longtemps, que ce soit la maison des ados, ou n'importe quel autre espace, en fait, qui pourrait faire avoir cette fonction-là de pouvoir eh bien, évaluer un petit peu ce qui se passe pour l'adolescent, même si le mot évaluer n'est pas un joli mot, mais en tout cas, rendre compte un peu de ce qui se passe et pouvoir ouvrir un espace de parole à cet adolescent-là. Et parfois, la venue à la maison des ados, je le disais tout à l'heure, et après je m'arrête de parler, mais la venue est un peu contrainte par les parents, mais parfois c'est nécessaire aussi. C'est-à-dire que cette première contrainte peut donner lieu à ce que l'adolescent déploie ses questions, déploie ce qu'il traverse, son vécu avec le professionnel. Donc ça peut être quand même une démarche constructive.
Merci beaucoup, Karine. Est-ce que tu veux compléter ?
Juste pour dire, enfin, si les adolescents sont soumis à de fortes pressions, les parents aussi. Et les parents sont très soucieux, parfois quand on les reçoit à la maison des ados, d'être de bons parents. Donc un bon parent, c'est celui qui saurait repérer chez son adolescent tout ce qui va pas, qui saurait quoi lui proposer et qui aurait un petit peu réponse à tout. Ce sont des injonctions qui pèsent aussi sur les parents, qui parfois, quel que soit le lien de qualité qu'ils ont avec leurs enfants, sont à la fois les mieux positionnés parce qu'ils le connaissent et qu'ils ont un savoir aussi en tant que parents sur ce qui peut arriver à leur adolescent, et puis parfois sont les moins bien placés parce que justement trop proches de leur ado pour pouvoir se faire une idée de ce qui peut leur arriver, sachant que effectivement c'est un âge où on s'aperçoit que même si on aime beaucoup ses parents, on n'a quand même pas envie de tout leur dire. Et que dans ces cas-là, c'est quand même mieux de pouvoir proposer à son adolescent de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui sera extérieur justement à la famille quand on sent qu'il y a quelque chose du dialogue qui est un petit peu bloqué. Donc ça peut être professionnel, ça peut être d'autres adolescents effectivement de l'entourage, d'autres adultes de confiance, comme le disait Cécile. En tout cas, essayer d'ouvrir à un moment donné sur d'autres espaces possibles pour l'ado et pour les parents pour qu'ils puissent aussi un peu s'alléger du poids de ce qu'ils seraient censés faire s'ils étaient des super parents ayant réponse à tout.
Merci beaucoup. Du coup, on parle donc de santé mentale, on a fait un focus sur les jeunes, mais du coup, effectivement, les parents, ça les stresse aussi un petit peu tout ça. Comment on fait pour faire attention à sa propre santé mentale ?
Là aussi, hein, alors même si les repères sont pas forcément les mêmes que chez les adolescents, mais bon, chacun a un peu une idée de son propre, de ses propres seuils de fragilité. Alors parfois, quand on est parent, on peut être aussi être très pris par d'autres choses, par son activité professionnelle, par le fait qu'il y ait plusieurs enfants dans la fratrie, voilà, qu'il y ait beaucoup de choses qui viennent à un moment donné prendre de l'espace psychique. Mais chacun a aussi des repères en soi sur à un moment donné, quand ça déborde trop, une difficulté à prendre des décisions, à y voir clair. Et les repères qu'on a énoncés pour les adolescents peuvent être aussi à un moment, alors différemment, possible pour les adultes. Quand il y a d'un moment où on n'arrive plus à tout faire, où on est débordé, un peu effondré, avec des moments de tristesse dont on a du mal à se sortir. Bon, voilà, c'est des petits repères des petits signes qui, mis bout à bout, à un moment donné, peuvent faire penser aux parents que peut-être eux-mêmes ont besoin d'aller solliciter du tiers pour pouvoir s'expliquer un petit peu à eux-mêmes ce qui est en train de leur arriver. Ou ce qui est en train d'arriver à leur adolescent.
Merci beaucoup. Du coup, on va attaquer la partie moi, qui m'intrigue fortement. Donc, c'est cette fameuse formation au premier secours en santé mentale qui existe. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ?
Alors, PSSM, c'est un programme qui a vu le jour en Australie il y a à peu près une vingtaine d'années et qui se diffuse en France là depuis environ 3 ans, 4 ans. Bon, vous avez aussi un site internet de PSSM qui permet de retrouver ces informations plus précisément. Donc, il y a plusieurs modules. Il y a un module qui est dit standard, qui est un module qui consiste à former la population générale à donc des premiers secours en santé mentale qui sont un petit peu calqués sur les premiers secours somatiques entre guillemets, sauf que évidemment que la question se pose pas tout à fait de la même manière dans la justement donc comment intervenir. Donc ça forme ceux qui le souhaitent à devenir secouristes en santé mentale. Donc le module standard concerne la population générale donc plutôt de 18 à 99 ans. Il y a un deuxième module qui concerne ce qu'on appelle le module jeune, qui est un module auquel sont formés les professionnels qui travaillent avec des adolescents. Donc dans ce module-là, on apprend à reconnaître les signes de détresse psychique chez les adolescents et les jeunes adultes. Et donc il y a un troisième module qui va concerner le repérage par les adolescents eux-mêmes, qui vont eux-mêmes être formés en tant que secouristes pour repérer des signes de détresse chez les adolescents de leur âge. Donc, à la Maison des Ados, nous sommes formés sur le module standard et le module jeune. Donc, on peut dispenser ces formations-là aux professionnels qui en font la demande. Et donc, l'idée, c'est que c'est un programme très, très dense qui est sur 2 jours. Donc, il y a 2 fois 7 heures de formation, qui est découpé en grandes catégories, alors comme le disait Cécile tout à l'heure, enfin qui sont des manières un peu de se représenter la santé mentale qui tient pas forcément toujours compte de la manière dont ça se passe dans la réalité, mais découpé en grands troubles, donc comme l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychotiques, les troubles de l'usage des substances. Donc, il s'agit là, pour les professionnels qui sont formés à ça, de repérer les signes qui vont justement permettre de distinguer ce qui serait d'une adolescence un peu classique où ces comportements, ces troubles peuvent être présents, mais de manière transitoire, et ce qui peut justement permettre aux professionnels qui le souhaitent de repérer des troubles qui auraient tendance à s'installer plus dans la durée s'il n'y avait pas une prise en charge adaptée. Donc voilà, une idée de repérage, une idée aussi de comment intervenir justement dans ces situations-là, comment construire une approche en fonction du lien qu'on a avec le jeune et le sensibiliser à ce que le professionnel a remarqué des difficultés du jeune en question et à terme, pouvoir lui proposer une aide adaptée qui va justement permettre une intervention précoce et éviter aux troubles de, s'il y en a, de s'installer dans la durée.
Super intéressant, merci beaucoup. Alors justement, vu qu'on n'a pas, on peut pas faire la formation en accéléré sur 2 jours maintenant, est-ce que vous pourriez nous partager, pour vous, les 3 gestes principaux à connaître pour aider quelqu'un?
Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure en introduction, mais ce sur quoi insistent fortement les premiers secours en santé mentale, c'est les 3 critères dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la durée, depuis combien de temps est-ce qu'on repère que le jeune ne va pas bien? Alors, en fonction des différentes difficultés qu'il y a, bon, voilà, quand il y a un deuil, c'est normal qu'il y ait du temps pour s'en remettre, mais il y a des moments où, quand le deuil peut durer très longtemps et en tout cas être associé à d'autres difficultés qui donnent l'impression que le jeune a du mal à s'en remettre, bon, on peut s'inquiéter, par exemple, de quelque chose qui n'irait pas. Donc, la durée, le temps que dure le mal-être qu'on repère chez le jeune est un critère important à avoir à l'esprit. L'intensité, effectivement, ce dont se plaint le jeune. Alors parfois ils s'en plaignent pas et c'est d'autant plus alertant, hein, mais l'intensité de la souffrance, l'intensité des symptômes qui peuvent nous alerter, Et le retentissement, comme le disait Cécile tout à l'heure, le retentissement sur la vie du jeune, à savoir est-ce qu'il peut continuer ou non à mener la vie qu'il menait jusqu'ici, ou est-ce qu'il y a un changement radical qui peut nous laisser supposer que il y a des choses qui sont touchées pour lui, qui ne lui permettent pas justement d'avoir une continuité par rapport à ce qu'il pouvait être précédemment. Alors c'est pas des gestes directs avec lesquels on secourt quelqu'un, parce que ce sont des ça nécessite un accompagnement qui va être mené par des professionnels qui ne seront pas forcément ceux qui vont secourir le jeune dans le cadre, par exemple, des premiers secours en santé mentale. Mais ces trois critères-là permettent aux personnes qui s'inquiètent pour des adolescents de se dire qu'il va peut-être falloir, à un moment donné, amener ce jeune à consulter des professionnels qui vont pouvoir, eux, apporter une aide, une évaluation secondaire et une aide au long cours s'il y en a besoin pour cet adolescent.
Donc, en fait, on peut pas forcément faire quelque chose concrètement.
Alors, concrètement, comme le disait Cécile tout à l'heure, maintenir un lien de qualité avec le jeune qui va lui pouvoir, à un moment donné, lui permettre de dire ce qui se passe pour lui, c'est-à-dire pouvoir l'écouter de manière bienveillante. Et parfois, c'est difficile pour les parents qui peuvent être très inquiets pour leurs adolescents, qui pourraient avoir tendance justement à vouloir être interventionnistes ou à donner des conseils ou à dire aux jeunes que ce qu'il vit est secondaire. Déjà, ça, ce sont des attitudes qui donnent l'impression d'être des attitudes passives. Si on a à l'esprit d'être vigilant à cette manière d'accueillir la parole de l'adolescent, c'est quelque chose qui va permettre de tisser un lien avec lui, qui va lui donner l'idée que c'est possible de parler à des adultes. Et dans un second temps, si ce lien-là est préservé, ça va aussi lui permettre d'investir d'autres endroits où, s'il y a besoin de soins, il sera nettement plus en confiance pour le faire si avant ça, il a eu des adultes qui ont pu entendre ce qu'il avait à dire de manière bienveillante et sans qui ne vont pas remettre en question sa perception de ce qu'il vit. Donc, ça donne l'impression que ce ne sont pas des conseils directs, mais la manière dont on écoute un adolescent et la manière dont on laisse la porte ouverte pour pouvoir s'adresser à d'autres adultes quand on est parent, c'est une manière active de l'accompagner et de l'aider déjà dans un début de démarche de soins si nécessaire.
D'accord, parce que du coup, c'est vrai qu'à la maison des ados, ils peuvent venir tout seuls ou accompagner aussi,
oui.
C'est complètement possible.
C'est dans notre cahier des charges, on peut effectivement recevoir les adolescents mineurs sans l'accord des parents, parce qu'effectivement, pour certains adolescents, on voit bien que le fait d'informer les parents, c'est quelque chose qui rend difficile parfois l'accès à un espace de parole. Ils n'ont pas forcément envie que leurs parents soient au courant, ils n'ont pas envie de les inquiéter. Bon, voilà. Donc, la maison des ados est prévue pour ça, pour qu'on puisse recevoir les jeunes qui le souhaitent sans que les parents soient informés. Mais évidemment que tout notre travail va consister en un second temps à pouvoir solliciter les parents pour pouvoir poursuivre le travail. Et si, par exemple, on est dans l'idée d'une orientation vers une structure de soins, par exemple, pour le jeune, on a bien évidemment besoin de l'accord parental. Donc, l'idée, c'est de pouvoir construire ce travail dans la temporalité qui sera possible pour le jeune au moment où il vient, mais effectivement que ça soit possible à un moment donné.
D'accord. Question que j'avais pas prévu de poser, mais du coup ça me vient. Si on a envie en tant que particulier de faire cette formation justement, donc c'est possible, c'est ça, il y a un module qui
oui.
existe.
Oui.
Et en fait, c'est un module qui se fait en ligne ou c'est des structures où il faut aller?
En fait, c'est en présentiel, même si je pense qu'à terme, ils vont aussi prévoir des modules en distanciel, mais dans tous les cas, c'est une formation qui a beaucoup de mise en situation. Donc, ça nécessite d'être présent. Et pour ça, alors c'est possible d'aller sur le site de PSSM, à qui on peut adresser sa demande. Et en fonction de votre secteur d'habitation, ils vont vous orienter vers les professionnels ou les personnes qui pourront vous inclure dans un groupe soit déjà constitué, soit à constituer pour que vous puissiez assister à la formation qui est donc sur 2 jours.
Du coup, oui, Cécile doit nous quitter.
Oui, je suis navrée. Il faut que j'aille à la maison des ados. Donc.
Par mission. Merci beaucoup,
Cécile. Bon après-midi.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Du coup, Karine, tu restes avec nous et c'est toi qui vas devoir répondre à toutes mes questions. Non, j'étais vers la fin. Mais en fait, je trouvais ça intéressant parce que une des participantes a posé une question dans le chat et je pense que ça peut être chouette avant que je te pose ma dernière question. Donc, elle nous dit, comme vous avez énoncé les trois points principaux qui amènent les ados à la maison des ados, avez-vous des grandes lignes de décalage que vous avez mentionnées entre le besoin ressenti d'ado versus parent? Ça peut être intéressant du coup, de un petit peu les deux versions.
Oui, parce que donc souvent on reçoit des parents, par exemple, qui poussent la porte de la maison des ados pour bon voilà, les motifs fréquents qui reviennent, c'est mon adolescent décroche scolairement ou c'est très conflictuel à la maison, ou bon, ils viennent avec en mettant en avant ce qui les préoccupe à eux. Et parfois, effectivement, quand l'adolescent est rencontré par un autre collègue par ailleurs, on s'aperçoit que sa version à lui du problème n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que pour les parents, parfois, ce qui les inquiète, ce sont des symptômes qui sont très manifestes. Et souvent, c'est quand ça concerne la sphère scolaire ou qu'il y a des conflits très forts à la maison, avec des manifestations parfois violentes, que ce soit sur le plan verbal et parfois physique. C'est ça qui les alerte. Mais parfois, les jeunes, en fait, eux, ce qui les préoccupe n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, pour un parent qui va venir parler du décrochage scolaire de son adolescent ou d'une éventuelle phobie scolaire, parce que ça fait partie des termes dont on entend beaucoup parler à la maison des ados. Donc, eux, ils viennent, ils constatent, ainsi que l'établissement scolaire, qu'il y a une chute au niveau des notes, que c'est un adolescent qui se replie, qu'il a beaucoup de mal à aller en cours, il est très angoissé le matin, il n'y arrive plus. Ça, c'est ce que remarquent les parents. Et puis parfois, quand on discute avec l'adolescent, pour lui, alors ça, c'est effectivement des conséquences d'un mal-être, mais c'est pas la première chose qui fait qu'il en souffre. Ce sont les conséquences parfois qui sont plus visibles pour l'entourage social et familial. Le jeune, lui, il peut se plaindre d'une difficulté à faire avec son image qui a changé, son corps qui a changé, les moqueries qu'il peut éventuellement subir à l'école. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de moqueries, hein. Ça peut être des adolescents qui sont encombrés eux-mêmes par le fait qu'ils aient changé et que leur image n'est plus tout à fait celle qu'ils ont connue. Donc, parfois, nous, on est plus. On entend plus ces adolescents parler de choses qui ont changé en eux personnellement et qui parfois ont des répercussions dans les champs qu'on a déjà évoqués, mais qui ne sont pas forcément des choses tout de suite attrapables par les parents, puisque ce n'est pas forcément ce que leur adolescent va être en mesure de leur dire. Parce que ce sont des choses qui sont déjà très compliquées à dire pour eux-mêmes. Parfois, ces ados, ils n'ont jamais parlé de ces changements. Ils n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir des mots pour dire ce qui leur arrive et que d'autres adolescents puissent être concernés par les mêmes choses qu'eux. Donc, il y a tout ce travail de mise en forme déjà de quelque chose qui donne l'impression d'être soit indicible, soit honteux, soit qui n'est pas censé exister et qui fait qu'effectivement, il y a comment dire, un contraste fort parfois avec ce qui amène les parents à consulter. Et en fait, l'endroit où l'adolescent, lui, est de sa construction et de son rapport à l'autre. Bon, voilà, après, il y a tout un tas de situations très différentes. Bon, c'est difficile de rentrer dans chacune,
En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça a pu vous aider, Cécile. En tout cas, c'était une question très pertinente, je trouve. Donc, c'est intéressant. Et puis, je pense que surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que forcément, on n'est pas au même développement, en tout cas de construction. Donc, en fait, la vision, on va dire, si on regarde la vie avec nos lunettes de parents et la vie avec des lunettes d'ado, forcément, les.
Oui, on a un peu oublié hein, quand on est adulte ou parent d'adolescent à quel point c'est effectivement c'est loin et mais à quel point ces questions-là ont bouleversé chacun. Alors pas de la même manière. Hein, il y a des adolescences très tranquilles. Parfois les adolescences tranquilles ne sont pas forcément les moins embêtantes. Hein, mais en tout cas, c'est important de garder à l'esprit que c'est une période qui secoue beaucoup et que parfois ce qui préoccupe les parents. Comparativement à ce qui préoccupe l'adolescent et tout ce qu'il a absorbé à ce moment-là, voilà, donne l'impression que les acquisitions scolaires peuvent être un peu secondaires par rapport à ce qui le travaille.
En tout cas, c'est vrai que ce qu'on voit en général, qu'importe la problématique, ce qui est hyper important, c'est de garder ce lien fort avec l'ado et d'arriver à communiquer le plus possible, en tout cas avec son ado. En tout cas, sinon vous êtes là pour ça, c'est vraiment c'est la grosse galère et qu'on n'y arrive pas du tout.
Oui, et puis on peut aussi recevoir les parents sans l'ado. C'est-à-dire que parfois les ados n'ont pas du tout envie de voir qui que ce soit, même à la maison des ados où on a une approche plutôt souple. Donc on peut aussi recevoir les parents qui se questionnent sur leur adolescent sans forcément que l'ado soit convié tout de suite à nous rencontrer.
Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous poser une dernière petite question. C'est la question que je pose en général aux invités du podcast, mais j'aime bien parce que c'est toujours à ce moment-là qu'il se passe un truc. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux personnes qui sont là aujourd'hui?
En tout cas, je crois que ce dont ont besoin aussi les adolescents et leurs parents, c'est de savoir que ce qu'ils vivent est quelque chose qui peut... ne pas durer quand les adolescents éprouvent un mal-être ou les parents parfois ont l'impression d'être dans une impasse. Ils ont parfois le sentiment que c'est une galère qui va durer très très longtemps et qu'il n'y a pas d'issue à ça. Je crois que c'est important de pouvoir dire aux familles et aux adolescents qu'il y a des issues et qu'il y a des manières de faire face à certaines difficultés qui peuvent donner l'impression qu'elles vont durer dans le temps et que voilà, et qu'il y a des possibilités de se rétablir, y compris de choses qui peuvent être rendre vulnérables à un moment donné, et de voilà, de diffuser un peu ce message-là que il faut trouver les interlocuteurs pour pouvoir aller mieux et dire quelque chose de ce qui se passe pour soi. Pas rester tout seul avec ça, en tant que parent et en tant qu'ado.
Merci beaucoup, j'adore ces messages, j'adore ces questions. Du coup, effectivement, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question dans le chat, savoir où vous étiez, comment vous étiez physiquement. Donc, j'ai mis le lien du site de la Maison des Ados, n'hésitez pas à y aller. Déjà, quand on arrive sur la page de couverture, on voit la map avec tous les points qui existent. Et dans l'onglet « Contacter », il y a toutes les informations, en tout cas pour les retrouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'au bout. J'espère que ce moment, vous avez pu trouver des informations, que ça a pu vous aider, vous éclairer. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller à la Maison des Ados, justement, poser vos questions, essayer de les suivre. Déjà, vous êtes présents aussi sur les réseaux. Donc, il y a plein d'informations. J'ai récupéré quelques informations ici. C'est enregistré, donc peut-être qu'on pourra partager déjà le message de fin qui était incroyable. Merci beaucoup. Et merci à tous pour ce moment.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.